L'âge bête sur RCN.
Bienvenue dans l'âge bête sur RCN, il est 14h. Cette émission est enregistrée depuis le lycée Marquette de Pont-à-Mousson. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Salut.
Comment vous allez aujourd'hui?
Ça va et vous?
Ça va, ça va.
Parfait. Donc aujourd'hui au programme, on aura Louise avec un conte africain.
C'est ça.
Ensuite, on écoutera Antonin avec son quiz de culture générale.
Le quiz habituel, voilà.
Et pour finir, on entendra Lucie avec ses expressions françaises.
Comme d'habitude.
Restez avec nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Donc Louise, nous t'écoutons pour ton conte africain.
Alors j'ai décidé de vous parler du tortue et du lièvre. Donc c'est un conte qui a transformé les continents parce qu'on en parle aujourd'hui et normalement vous le connaissez avec la fable de la fontaine.
Oui,
donc,
c'est assez connu.
La tortue, le lièvre est une histoire intemporelle qui nous enseigne les leçons universelles de la patience, de la ruse, de l'arrogance et de la persévérance. Ce récit est connu à travers de nombreuses variantes. En Afrique, il illustre le triomphe de l'intelligence et de la stratégie face à la brutalité et à la rapidité. Donc j'avais envie de vous parler de ce conte parce qu'il y a quand même quelques versions entre la version africaine et celle qu'on connaît nous dans la fable. Donc en gros, un jour, une tortue et un lièvre se retrouvent dans la forêt et le lièvre rapide, agile, ne manque pas une occasion de se moquer de la tortue qui est très très lente et pesante. En lui disant qu'avec sa lenteur, elle n'arriverait jamais à aller quelque part. Et que lui, il est rapide, plus rapide que les animaux de la savane. Et du coup, la tortue, patiente et sage, accepte ses moqueries sans réagir. Mais pour donner une leçon d'humilité au lièvre, elle lui propose un défi. Elle lui dit, puisque tu es si sûr de toi, faisons une course. Nous verrons qui est le plus malin à l'arrivée. Donc le lièvre, il éclate de rire et il accepte immédiatement.
Pour l'instant, ça ne change pas du conte de la
une
fontaine.
Une course contre une tortue, ça lui paraît complètement ridicule. Du coup, la date de la course, elle est fixée et les animaux de la forêt se rassemblent pour assister à cet événement improbable au signal du départ. Le lièvre s'élance comme une flèche, laissant la tortue bien loin derrière. Mais trop sûr de lui, il décide de ralentir, de s'arrêter pour manger, boire et même de faire une sieste. Certain qu'il pourrait rattraper la tortue à tout moment. Ça, jusqu'ici, c'est encore le conte de
oui,
la
c'est assez
oui, ça me rappelle bien.
Et pendant que la tortue avance lentement mais sûrement, elle s'arrêtera jamais et continue de progresser lorsque le lièvre il va se réveiller, se rendre compte que la tortue est proche de la ligne d'arrivée. Il bondit pour la rattraper, pour rattraper son retard, mais il est trop tard et la tortue franchit la ligne d'arrivée sous l'acclamation des animaux. Donc humilié, le lièvre apprend de ses leçons précieuses, la patience, la persévérance. Le fait que la persévérance l'emporte souvent sur l'arrogance et la précipitation. Donc ça, c'est le conte qu'on connaît tous. Et la variante africaine que j'apprécie beaucoup, c'est une version plus rusée. Elle propose à certaines traditions africaines. Et la tortue ne se contente pas de compter sur sa patience, elle utilise également son intelligence et la solidarité de sa famille. À savoir qu'en Afrique, la famille, c'est une valeur qui est vraiment très mise en avant. Et du coup, elle est vraiment mise en avant dans ce conte. C'est-à-dire qu'avant la course, dans le conte africain, la tortue, elle réunit ses proches et leur confie un plan ingénieux. Elle va courir contre le lièvre. Mais vu qu'elle sait, elle sait très pertinemment qu'elle est beaucoup moins rapide que lui, elle va demander de l'aide à ses amis pour le tromper. Elle place ses cousins et cousines tout au long du parcours, cachés dans les buissons ou derrière des arbres. Chaque tortue porte un foulard de la même couleur pour que le lièvre pense qu'il s'agit toujours de la même tortue. Et lorsque la course commence, le lièvre s'élance et dépasse la tortue comme prévu. Mais quelques instants plus tard, il voit une tortue devant lui. Déconcerté, il accélère et la dépasse à nouveau. Cependant, plus loin, il en aperçoit encore une autre. Cela se reproduit plusieurs fois et à chaque fois, une tortue apparaît mystérieusement devant lui. Le lièvre, épuisé et désorienté, finit par abandonner, croyant qu'il n'arriverait jamais à battre cette tortue magique. Et pendant ce temps, la tortue et sa famille se tiennent près de la ligne d'arrivée et elle la franchit en triomphant.
Oh, c'est super, j'aime
bien.
Trop la
variante.
Du coup, là, la patience et la persévérance, elle va triffer de l'arrogance dans la version classique. Et dans la version, africaine, le fait qu'elle ait besoin de sa famille et qu'elle prenne conscience que, elle n'y arrivera pas toute seule et qu'elle demande l'aide de ses amis, je trouve ça beaucoup plus logique parce que, en fait, c'est pas logique qu'elle provoque le lièvre dans une course alors qu'elle est censée être sage, la tortue, et qu'elle sait pertinemment qu'elle n'arriverait pas à une course normale. Donc je trouvais vraiment cette variante très intéressante.
Ouais, c'est sympa, surtout en Afrique, avec toutes les valeurs
c'est ça.
Qui tournent autour de la famille, c'est super.
Donc n'acceptez pas de course contre des tortues parce que vous allez être bernés.
merci Louise, c'était super intéressant. On se retrouve juste après une courte coupure musicale. On entendra Diet Pepsi de Season Ray.
Mmh. Bête sur RCN.
Vous êtes dans l'âge bête sur RCN, on écoute maintenant Antonin et son quiz de culture générale.
Bonjour, bonjour. Alors au programme, donc comme d'habitude, 10 questions différentes. Donc là j'ai choisi des propositions, mais évidemment si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Lucie, tu t'es fait une renommée la dernière fois, hein, on se souvient tous bien. Voilà, donc on fait attention à toi.
C'est okay. Vrai que Lucie est très très forte sur ça.
Que la dernière fois.
Donc, première question. Dans la mythologie grecque, qui était l'époux d'Aphrodite ?
L'époux Alors, d'Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse...
De l'amour.
Oui.
Et du charme.
Ouais.
Donc, son époux...
Je crois que c'est celui qui... Ah, c'est celui qui... Là, un des frères... Il y a trois frères. Il y a Hadès... Il y a Zeus, Poséidon, et il y en a un troisième frère, il me semble. Et c'est ce troisième frère-là.
Oh, je t'avoue que je ne sais pas.
Zeus, alors, Poséidon, je crois que Hadès. Oui, il me semble que tu es sur la bonne voie.
Mais je ne sais plus son nom.
Ils sont quatre.
Ils sont quatre, et oui. C'est le quatrième des frères.
Mais tu diras si ça dit quelque chose, du coup, dans les propositions que je vais donner. Donc, l'époux d'Aphrodite est soit 1, Zeus, 2, Héphaïstos, 3, Arès.
Héphaïstos.
Le dieu qui fabrique
oui,
les objets.
Qui fabrique des objets.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est dieu de la forge, non ?
Oui, ouais, voilà.
Dieu du feu aussi. D'ailleurs, c'est comme ça aussi dans les histoires où il raconte que Épiméthée, c'est ça, il avait pris le feu à Héphaïstos pour le donner aux humains.
Voilà, oui, je l'ai vu en film.
Et après, il s'est fait punir.
En film, c'est ça ?
En philosophie.
Ah, en philosophie. Ah, c'est marrant. Non, parce que moi, c'est dans une BD, je crois, où en fait, il représente très très bien sous forme d'histoire. La mythologie grecque, en fait, et il y a toutes les histoires.
Ouais, et c'est Épiméthée Épiméthée qui vole le feu et le donne aux humains parce que.
Voilà. Ah bah, y a pas que le feu, hein,
oui.
Par contre.
Oui.
Il y a l'intelligence, l'art du combat.
Oui,
aussi.
Mais le feu, ça représente l'intelligence,
ouais.
L'art de combat.
Parce que le feu, ça représente l'intelligence et aussi la technique.
Parce qu'il l'avait pas encore et donc.
Et là.
Ok. Je vois. En tout cas, donc c'est une bonne réponse.
Bah parfait.
Deuxième question. Quel est le plus au sud de ces fleuves ? Donc, 1, l'Orénoque, 2, l'Amazone. 3, le Colorado.
Wow. Vous avez une idée?
Je suis très nul en géographie. Donc
Colorado.
Alors, le plus au sud, c'est en bas. Non, en fait, je dis ça, c'est parce qu'il y a des...
Il y a des fleuves, bah oui, en fait, ils sont assez longs, donc
bah oui,
il y a une différence de fleuves. L'Orénoque, pour vous donner un indice, c'est plus en Amérique du Sud. Pareil pour l'Amazone. Du coup, ce serait plutôt eux, mais le Colorado voilà, est plus long, donc en gros,
ouais,
ça donne le bénéfice.
Faire plus de
parce
distance.
Que le Colorado, c'est aux États-Unis, je pense que vous le savez.
Oui. Bah
donc,
franchement, je sais pas.
Non, aucune idée, là.
Bah, peut-être pas, du coup, s'il est aux États-Unis.
Ouais, je pense plutôt l'éliminer, ouais.
Oui. Ouais.
Ok, donc vous avez le choix entre l'Orénoque et l'Amazone.
Je dirais l'Amazone.
Oui. Ouais,
est-ce
allez,
qu'un
l'Amazone.
Des deux vous dit quelque chose, vous connaissez
Non, pas spécialement.
Non, pas spécialement. Donc en fait, il s'agit du Colorado. Oui, alors aux États-Unis, à l'Amérique du Sud quand même. Hein. Alors j'ai vu, alors je crois que je me souviens, c'est 7,5 km. 7500 km.
Il est super long.
J'arrive pas à voir ce que ça représente.
Oui.
Mais du coup, je pense que ça suffirait à descendre plus au sud.
J'avais raison, j'aurais dû rester sur
la
première.
C'est vrai. Troisième question. L'acteur principal de It's a Wonderful Life est 1. James Stewart, 2. David Niven, 3. Woody Allen.
Est-ce que vous avez vu ce film?
Non.
Ok.
Ah. Il parle de quoi ce film?
Bon, bah en fait, faites au hasard. À vrai dire, je ne le connais pas.
Ok, donc on parle d'un film qu'on ne connaît pas, je dirais la deuxième proposition,
en fait.
Juste comme ça, allez.
Mais en fait, je suis tellement honteux, mais c'est pas grave. Allez, donc la réponse était James Stewart quand même, hein, faut quand même le dire, l'acteur principal de It's a Wonderful Life.
Ok, super.
Et la prochaine fois, allez, alors qu'est-ce que je vais dire la prochaine fois? Bon, déjà, je vais raconter un peu l'histoire de ça la prochaine fois, et on va dire quel est le producteur, voilà.
Ça marche.
4, la zibeline et la fourrure. 1, du castor. 2, de la loutre. 3, de la martre.
La zibeline.
Oui, c'est le nom d'une fourrure.
Je pense pas que ce soit la fourrure de la loutre, dans le sens où c'est assez courant, donc je pense qu'on aurait un nom qui nous parlerait.
Il y a... Je pense que c'est le dernier, parce que je connais pas.
Moi aussi.
Ou alors castor, hein. Non,
non, je pense pas.
Ah, peut-être que c'est des espèces protégées aussi.
La martre, vous connaissez pas?
Non, je sais pas ce que c'est.
Si, c'est une petite loutre aussi, je crois.
C'est aussi, en fait, ça ressemble
à... Ah,
bah
alors, peut-être le castor.
Un petit ragondin.
En fait, ouais, c'est ça, c'est vraiment
ouais,
ça, la
bon,
martre.
Écoutez, moi, je dis castor.
Moi, je dis la martre, allez.
Ok.
Bah, je dis castor aussi.
Castor. Eh ben, la zibeline et donc la fourrure de la martre.
Ah.
Ok.
Donc, la martre, voilà, ça ressemble un peu à tout ce qui est loutre, castor, voilà.
Petit ragondin.
Exactement. Cinquième question. Qui a prévu le premier, le premier dans l'histoire, en fait, une éclipse solaire? Déjà, si vous connaissez,
c'est
hein,
un
vous
grec.
Toujours dire quelque chose.
C'est forcément un grec.
Celui qui a créé l'objet pour se repérer quand on est sur un bateau, le tout premier objet.
Mais ça n'a pas de rapport avec une éclipse, si?
Oui,
mais
parce
que c'était dans le ciel et tout,
c'est avec le ciel un petit peu.
C'est possible qu'on l'ait vu en mathématiques.
Oui.
Ah, ça peut être un bon indice.
Alors attention.
En fait, oui.
Ah, moi je suis arrêtée à Pythagore,
c'est plus...
alors.
Pythagore,
Thalès.
Thalès.
Oui, bon après, vous dire, on n'avait pas beaucoup de solutions. Oui, alors voilà, j'avais proposé Thalès, Aristarque et Galilée.
Galilée. Ah, oui, c'est
de toute façon, c'était.
Pu, ça aussi, parce
mais
que c'est
mais c'était forcément grec.
Ouais.
Voilà, donc il s'agit de Thalès. Personne connaît son prénom.
Non.
Non.
Bah, c'est peut-être théorème, du coup, on va dire ça. Sixième question. Aujourd'hui, disparu, le dodo était un rongeur, donc je parle d'un animal. Hein. De un oiseau, 3, un ours.
Un oiseau.
Un oiseau, c'était un petit dinosaure.
Oui,
4,
le dodo.
Un paresseux.
Sorte... On a tous eu Jurassic Park
ici. Une sorte
ici,
de petit pigeon, un peu, comme
mais
ça.
Mais c'était super chou, je crois.
Oui.
C'est un peu un pigeon amélioré, on va dire.
Ouais.
Mais un gros pigeon, alors.
Oui, certaines améliorations quand même, ouais, voilà. Mais du coup, aujourd'hui, il est disparu, plus moyen d'en croiser. À part.
Dans Jurassic Park.
Ouais,
c'est ça.
Il y
ou dans les musées.
Dans Jurassic Park
non, oui, je crois qu'il y en a. Hein.
Quoi, ouais, vraiment.
Après, il y en a plein de Jurassic Park.
Le dodo, c'est celui qui est avec des
avec des grosses plumes.
Mais oui,
ouais,
c'est
des grosses
ça.
Plumes de toutes les couleurs.
Oui, c'est ça.
Rouge, bleu, jaune.
Ouais,
ah,
c'est
je
ça.
Vois.
T'étais censé avoir fait des recherches dessus.
Non, non, mais j'avais un doute.
Oui, oui, bah, c'est sûr, c'est pour ça qu'on connaît le dodo.
Franchement, moi, je le trouve fascinant. Il est assez beau.
Mais c'est dommage qu'il soit éteint.
Ou pas, bah, ouais. Hein. Ou pas.
Ça reste
un dinosaure, hein, voilà.
Septième question. La première édition du dictionnaire de Littré date de 1791, 2 1821 et 3 1867.
1700 et quelques.
1780.
C'est tôt hein, quand même.
Parce que ouais, mais quand j'ai fait mes recherches pour mes expressions, j'ai vu qu'il y avait plein de dictionnaires qui dataient depuis très longtemps.
Les premiers dictionnaires, okay. ils sont
là,
vieux.
Là, je dis la première édition du dictionnaire de Littré.
Ah, donc c'est une édition spéciale.
Oh, je dirais que c'est 1700
ouais,
quand
moi,
même.
Ouais, moi je pense aussi. Après, ouais, je pense aussi.
Je sais pas.
Après, il y a le Après, il y avait l'invention de Gutenberg et tout, donc...
La première ou la deuxième, une
après,
des deux.
On est à 1791, on est pendant la Révolution française, donc... soit la première, soit la deuxième aussi. Vas-y, tu choisis la première et moi je choisis la deuxième.
Ok, ou... okay
comme ça on est sûr d'avoir...
Donc on t'écoute, Antonin.
Comme ça on est sûr que vous vous êtes trompé.
Ok.
Donc voilà, donc c'est un peu plus tard quand même,
je pense. Drôle. Ne jamais dire être sûr, ne jamais être sûr comme ça, là. La déception, elle est lourde.
Donc, non, du coup, c'était quelle date ?
1865.
Ok,
du coup, c'est date. Oh, on a juste.
Pas beaucoup, ouais.
100 ans, on a juste 100 ans d'écart, c'est pas grave.
Oui,
22 siècles, voilà. Alors, ensuite, en quantité, l'Égypte produit plus 1 d'agrumes, 2 de canne à sucre, 3 de coton.
Ah, j'hésite entre coton et canne à sucre.
Ouais.
Pour moi, coton.
Coton,
pour moi, canne à sucre, c'était au.
Ah non, canne à sucre, ça peut être pas mal aussi.
Je sais pas. Peut-être pour moi, c'est plus bas dans le, en Afrique, la canne à sucre. Enfin, je sais pas.
Ouais, mais c'est à côté de d'eau et tout, hein, ouais. L'Égypte. Donc, ça peut être pas mal. Hein.
Oui, y a
je sais pas.
Moi, mais coton aussi.
Ouais,
donc,
coton aussi.
Je dirais un des deux.
Bon, moi, je vais dire canne à sucre.
Moi, je pense coton.
Canne à sucre.
Vous semblez avoir écarté agrume. Donc, oui, c'est une bonne chose de l'avoir écarté, je vous dis ça. Donc, oui, ça se joue entre canne à sucre et coton. Et la bonne réponse est canne à sucre.
Ah, ah, parfait.
Donc, en quantité, il y a plus de canne à sucre qui est produit en Égypte.
Oui, okay.
Ça ne veut pas dire que les autres sont mis de côté. Hein. Il doit sûrement y en avoir. Parce que c'est vraiment vers ces eaux-là que les agrumes, vous voyez, vers l'Espagne, le coton, beaucoup en Afrique aussi.
Et ben on saura.
Voilà.
Voilà, maintenant on sait.
Même question. 10 décibels sont équivalents à. Alors,
10 décibels sont équivalents.
On est obligé de donner des réponses. Alors, 1, 1 watt. 2, 1 bel. 3, rien du tout.
Mais c'est 10 décibels. 10
décibels.
C'est 10 bels, non ?
Bah non.
Non, 10 décibels, ce serait égal à 1 bel, 1 watt et rien du tout.
Bah en vrai je dirais un
peu. Rien du tout dans le sens aucun des deux propositions.
Moi je pense aucun des deux propositions.
Ouais, je dirais que c'est... Non c'est...
Est-ce qu'on peut vraiment convertir ça en watts ?
Bah 10 décibels.
Bah en watts c'est plus
l'électricité. Et un bel.
Hein.
Bah oui c'est pour ça.
Un bel.
C'est le son avec... c'est des,
après ça peut-être
des ondes sonores
avec, l'onde de choc,
avec l'électricité. J'ai pas fait beaucoup de physique chimie mais il me semble pas.
Les propositions.
Alors donc 10 décibels sont équivalentes à soit un watt, soit un bel... Soit vous êtes dans le déni, vous dites rien du tout.
Moi je dirais un bel.
Moi je dirais rien du tout.
Je dirais un bel.
Et ben ce sera un bel. Oui.
Ah, okay.
Parce que c'est 10 décibels et ensuite c'est la colonne des belles.
Décibels, belles, c'est comme.
Okay. Mais c'est vrai qu'on mesure pas beaucoup en belles.
Ah oui, très très peu.
Oui, oui c'est. Bah, pourtant en plus, vous voyez, il y a moyen de s'en servir. Hein. Après les belles, c'est. Oui, c'est souvent... En fait, ça ferait des trop petits chiffres, je pense. C'est pour ça qu'on n'utilise pas les belles.
Oui.
Alors, dixième et dernière question, si vous n'y connaissez. Un individu albinos a toujours, 1, les yeux rouges, 2, les cheveux blancs, 3, les dents jaunes.
Les cheveux blancs.
Les cheveux blancs.
Les cheveux blancs.
Parce que c'est un manque de pigments, oui, il me semble.
C'est ça,
au niveau de l'ADN.
C'est pas les,
je sais
yeux
plus.
Aussi blancs y a...
Non, les yeux
blancs.
Un peu,
les
yeux
gris.
Un peu plus
gris.
Rouges, peut-être, mais c'est pas tout le temps.
Les cheveux blancs, je trouve ça peut bien aller. Hein.
Surtout les cils blancs, les sourcils blancs, c'est super beau.
Les sourcils blancs, je trouve ça super joli.
C'est super beau.
Ça serait incroyable. Et bah voilà, c'est tout.
Et bah merci. Merci Antonin, on aurait appris plein de choses avec ton quiz. Nous revenons après avoir écouté Untouchable de Izzy. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
You're gonna know, you are gonna know. 내가 뭘 하든지 now you just keep your
Bête sur RCN.
Vous êtes dans l'âge bête sur RCN. On écoute maintenant Lucie et ses expressions françaises.
Voilà, donc est-ce que vous connaissez l'expression poser un lapin ?
Oui.
Oui, c'est assez connu, poser un lapin, c'est quand on vient pas en rendez-vous.
Voilà. Exactement. Elle date de la fin du 19e siècle. Poser, ça signifiait faire attendre à quelqu'un, faire attendre tout simplement. Et donc, poser un lapin voulait dire ne pas tenir une promesse, un engagement, donc faire attendre la personne. Mais pourquoi lapin ? Alors, lapin, ça voulait dire au début du XVIIe siècle, lapin de garance. Et on le disait quand c'était une personne qui a inventé une histoire complètement loufoque.
Ouais.
Donc, elle mentait et donc c'était... Et sachant que le lapin de Garenne, c'est le plus gros lapin.
Ouais, c'est le plus gros lapin,
donc, du coup, l'histoire, elle est un peu trop grosse pour être crue.
Okay.
Ok.
Voilà. Et donc, c'est-à-dire que l'histoire, elle est tellement improbable qu'elle peut pas être vraie. C'est donc un mensonge. On trompe la personne, on ne la respecte pas. D'où l'expression poser un lapin, c'est faire attendre quelqu'un quelque chose et ne pas respecter la personne en ne tenant pas le rendez-vous, en fait.
Ok, ça marche.
Voilà. Donc, en anglais, on dit « get stood up », se faire poser. Ils ont réduit l'expression.
Ouais.
Et en espagnol, on dit... Attention, mon
accent. Ça, on nous tombe plus bel accent.
Dar plantan a alguien.
Dar plantan a alguien.
Dar plantan a alguien. C'est donner une plante à replanter. Voilà.
Okay.
La métaphore est quand même bien.
Bah, on voit surtout que ça change par rapport au pays.
Chaque pays, j'ai regardé, bien. C'est totalement différent.
Ouais, c'est totalement c'est ça, différent.
Mais ils ont aussi plein de façons de le dire dans chaque pays, en fait. Voilà.
Ok, bah merci. T'en as une autre ?
Oui, alors est-ce que vous avez déjà utilisé l'expression « faire la grasse matinée » ?
Oui, bah tout le temps.
Voilà. Tout le monde, hein, je crois.
Elle date du 16e siècle.
Oh, c'est super vieux.
À ce moment-là, on disait dormir la grasse matinée. Donc, elle n'était pas tout à fait pareille. Le terme « gras », de grâce. Il a été associé à une chose molle et confortable, comme le matelas d'un lit dans lequel on va vouloir dormir plus longtemps. Ça fait un peu comme un cocon. Il peut aussi venir du latin crasus, qui veut dire épais, pour désigner une matinée plus épaisse et encore une fois du coup plus longue, vu qu'on dort plus longtemps. Ou encore une autre signification qui diffère cette fois des autres, dormir la grasse matinée pour dire dormir jusqu'à midi pour devenir plus gras. Alors, j'explique.
Ah oui, vu qu'on bouge.
Ça voulait dire que l'on dormait plus longtemps et que ça permettait de prendre du poids. Et ça, c'était une bonne chose, une chose positive à l'époque romaine, parce que cette signification-là était utilisée dès l'époque romaine.
Oh, je savais pas. Voilà. En vrai, c'est super vieux, l'expression.
Mais est-ce que c'était une vérité qu'on prenait du poids en dormant?
Non,
plus
pas forcément.
Parce qu'en fait, j'ai vu que dans certains pays, ils traitent les gens de vaches quand ils dorment beaucoup.
Bah, en soi, on est inactif, donc on brûle pas de calories. Et...
Juste, on bouge pas, en fait.
Ouais, oui.
Bah, donc, en soi, la journée est un peu plus courte.
Voilà. Donc, on perd moins de poids, je pense. Moins de calories, en tout cas. Pour terminer, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'expression « c'est là que le bât blesse »
En fait, quelquefois, mais... Bah, en fait, c'est le point négatif, quoi. C'est jusque-là...
Alors, je sais pas, je crois pas.
Alors, cette expression date du milieu du 15e siècle. Elle est utilisée pour définir l'origine d'un problème. Dans cette expression, on parle du bât, B-A, avec un chapeau, T, et non du bât, le bât. Donc, en fait, le bât, B-A-T, avec un chapeau, c'est le collant à cette époque.
Ah,
les rois et reines, ils mettent des bas, des collants.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et donc, en fait, j'ai plus le mot, ont fixé un bât sur le dos des bêtes pour faciliter le transport, les bêtes de somme, donc comme les bœufs ou les mulets. Et donc, c'était plus simple à transporter les marchandises, sauf qu'il pouvait arriver que le bât était mal accroché, mal fixé sur le dos de l'animal, et il pouvait créer des frottements et blesser l'animal.
Ah, c'est pour ça.
On disait alors que le bât, il blesse l'animal.
Ah.
Et donc, pour terminer, cette expression, elle sert à dire que l'on a trouvé la cause de la souffrance. Donc, dans le cas pour les animaux, c'était le bât, et ou le point de sensible d'une personne. Voilà.
Ah, donc ça remonte quand même l'expression.
Voilà.
Eh bien, merci. Merci, Lucie, pour tes expressions. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h. Ça sera moi qui animerai. Merci pour tout le monde. Merci tout le monde, pardon, pour vos chroniques. C'était vraiment super. On a appris plein de choses. Salut tout le monde.
Salut.